Bonjour à tous, vous écoutez Radio Les Albigès, et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans Mines de Savoir, une émission hebdomadaire animée par un groupe de 6 étudiants en école d'ingénieurs aux mines d'Albi, et que vous pouvez retrouver sur radioalbigès.com ou encore sur la chaîne YouTube Mines de Savoir.
Bonjour à tous, et c'est avec plaisir que je vais commencer cette émission en vous présentant ce qu'est l'effet de serre. Il était tout d'abord important de notifier qu'il existe deux sortes d'effets de serre, l'effet de serre naturel et l'effet de serre additionnel. Je vais m'occuper du naturel et je vais laisser le son à Brice d'expliquer ce qu'est l'additionnel. L'effet de serre est un processus naturel causé par l'atmosphère. Mais alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça comme ça? La quasi-totalité de l'énergie reçue par la Terre provient du Soleil. Un rayon solaire, lorsqu'il arrive sur l'atmosphère terrestre, est réfléchi à hauteur de 30%. 20% sont absorbés par cette atmosphère, et les 50% restants atteignent la surface terrestre. Cette énergie est forcément restituée à tout moment de la journée, en direction de l'atmosphère. Mais justement, cette fameuse atmosphère absorbe et réémet cette énergie vers la Terre. C'est pour cela que l'on appelle cela un effet de serre. L'atmosphère permet à l'énergie solaire de rentrer, mais elle l'empêche de s'en échapper. Et ainsi, à l'image de la serre dans votre jardin qui garde bien au chaud vos petites tomates, l'atmosphère permet à la Terre de garder sa chaleur et de s'isoler du vide spatial. L'effet de serre est donc un phénomène extrêmement important, et sans lui, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Il permet à la surface terrestre de ne pas brûler le jour, et de ne pas trop se refroidir la nuit. Ainsi, on estime que sans atmosphère, la température moyenne terrestre serait de moins 18 degrés, et que les écarts de chaleur entre le jour et la nuit seraient bien plus importants. Si on prend le cas de la Lune par exemple, le satellite naturel de la Terre, sa température à sa surface en journée atteint les 120 degrés Celsius, pour chuter à moins 180 degrés lorsque la nuit tombe. Maintenant qu'on sait ça, pourquoi l'atmosphère peut-elle jouer un rôle de serre? L'atmosphère est constituée exclusivement de gaz, tels que par exemple le dioxygène qui nous permet de respirer. Il se trouve que certains gaz de l'atmosphère terrestre contribuent énormément à cet effet de serre. Il en existe 4 principaux, qui sont la vapeur d'eau, le CO2, l'ozone et le méthane. Les gouttes d'eau présentes dans les nuages jouent également un rôle essentiel dans ce processus. Ils ne font donc surtout pas croire que l'effet de serre est un phénomène mauvais et confondre avec les effets de serre additionnels. L'activité humaine accroît cet effet de serre et c'est là que ça devient néfaste. Mais pour cette partie, je vais laisser la parole à Brice.
Comme Tanguy vient de l'expliquer, l'effet de serre, c'est avant tout un phénomène naturel. Seulement à cause du jeu du cycle de l'eau, du cycle de carbone et d'autres mécanismes qui lui sont propres, la Terre parvient à se réguler elle-même sur son bilan carbone, et ça fait des millions d'années qu'elle le fait. Le problème, c'est que ça fait 200 ans, donc depuis la révolution industrielle, que l'homme perturbe cet équilibre en venant ajouter sa propre dose de carbone à l'équation, à cause des différentes activités qu'il produit. Ces gaz, pour les trois quarts, c'est surtout du CO2, dès qu'on brûle du carburant ou un végétal, on rejette principalement du carbone. Mais commençons d'abord par chiffrer un peu plus la pollution en France. La pollution en France, c'est 26% d'émissions de CO2 pour les transports. Dès qu'on prend la voiture, on brûle de l'essence, on rejette du CO2. 22% pour les cheminées des grandes usines. Puis il vient 19% pour l'agriculture. En plus de ça, on peut rappeler que les vaches relâchent du méthane, un gaz qui est 20 fois plus polluant que le CO2. Et enfin, viennent les habitations, la production d'énergie et le traitement des déchets. Plus concrètement, on émet un peu plus de 300 millions de tonnes de CO2 chaque année, rien qu'en France. Tout ce beau monde est rejeté dans l'atmosphère et vient perturber un équilibre bien trop fragile. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand la Terre ne peut pas absorber tout ça? Que se passe-t-il quand elle ne peut pas encaisser toute cette dose de CO2? Eh bien, elle accumule. Elle accumule tous les gaz polluants, et le premier endroit de stockage de ces gaz polluants, ce sont les océans, les premiers touchés par la pollution. L'acidité de l'eau est modifiée à cause de la montée de la teneur en carbone. Les coraux, qui sont très sensibles, disparaissent en premier. Sauf qu'avec eux, ils emportent tout un écosystème, toute une faune, toute une flore, des poissons, d'autres végétaux, car c'est leur habitat. C'est là l'enjeu de la grande barrière de corail qui se meurt au large de l'Australie, et ce n'est qu'un exemple. Deuxième espace de stockage, l'atmosphère terrestre. C'est là que l'effet de serre se produit. Le CO2 retient sur Terre la chaleur qui était destinée à être rejetée dans l'espace. Comme la chaleur est retenue, la Terre se réchauffe, Greta Thunberg se fâche, vous connaissez sa chanson. Seulement si je vous disais quelque chose d'encore plus terrifiant. Si je vous disais qu'on arrivait peut-être à un point de non-retour. Prenez la fonte des glaces. La banquise, qui fond un peu plus chaque année, a un rôle crucial contre le réchauffement climatique. Elle a ce qu'on appelle un fort albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. En gros, plus il est haut, plus la surface réfléchit la lumière et la chaleur qui va avec. Un exemple simple d'application, si vous bronzez lorsque vous allez au ski, c'est parce que la neige, qui est très blanche, réfléchit beaucoup de lumière sur votre peau venant du soleil, et vous bronzez. Sauf que pour la banquise, on entre dans une sorte de cercle vicieux. La température monte à cause des activités humaines, le réchauffement climatique, la banquise fond un peu plus chaque année à cause de la hausse de température, et on renvoie donc encore moins de chaleur car il y a de moins en moins de neige et que les océans renvoient moins de chaleur vers l'espace. On a donc moins de banquise et une hausse encore de la température. Et bien cet effet, il a un nom. C'est ce qu'on appelle l'emballement climatique. L'emballement climatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une hypothèse qui ne s'applique pas seulement à la fonte de la banquise, mais plus généralement, c'est lorsque l'effet de serre amène à des effets irréversibles pour le climat, un point de basculement à partir duquel, même en arrêtant toute sa activité humaine, la Terre continuerait de se réchauffer par elle-même.
Merci beaucoup Brice, il est temps à présent de faire un point sur l'actualité écologique avec Léa.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, je suis ravie d'inaugurer aujourd'hui la chronique Actu Environnement. Alors cette chronique, c'est l'idéal si vous avez séché les informations liées à l'environnement de ces dernières semaines, puisque je me suis occupée de préparer une sélection de sujets qui, vous allez le voir, méritent qu'on s'y attarde. Alors c'est parti, on commence par une proposition de loi adoptée par le Sénat mardi 12 janvier 2021, visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les sénateurs souhaitent entre autres faire prendre conscience de l'impact environnemental du numérique, et ce dès le plus jeune âge. Ce texte propose donc plusieurs objectifs, comme celui de lutter contre l'obsolescence programmée et l'obsolescence marketing, qui incite à renouveler constamment les équipements numériques. Pour cela, les sénateurs souhaitent renforcer l'information du consommateur concernant les offres qui associent l'achat d'un smartphone à un forfait mobile avec engagement et qui incitent donc le consommateur à changer son téléphone mobile lorsque l'engagement prend fin. Les sénateurs souhaitent aussi voir se créer un référentiel général de l'éco-conception fixant des critères de conception durable de sites web, et ils demandent aussi de réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l'utilisation des box internet, avec par exemple une systématisation de la mise en veille automatique. Avancé ce 13 janvier 2021, le ministère de la Transition écologique a publié un décret qui fixe le plafond de consommation d'énergie finale qu'un logement devra respecter en France métropolitaine à partir de 2023 pour être qualifié de décent. Ce seuil de consommation énergétique a été établi à 450 kWh par mètre carré de surface habitable et par an. Autre annonce, je souhaiterais revenir sur celle faite donc par le gouvernement à l'occasion du One Summit Planet qui se tenait à l'Elysée le 11 janvier 2021. Se sont alors retrouvés une trentaine de décideurs mondiaux, dont Angela Merkel ou Boris Johnson, afin de prendre de nouveaux engagements pour la protection de la nature. Le gouvernement a donc prévu d'allouer 50 millions d'euros sur 2 ans à la plantation de 7000 km de haies et à la gestion durable des 90 000 km de haies existantes. Car depuis 1950, ce sont 70% des haies qui ont disparu des bocages français. Pourtant, les haies présentent de nombreux intérêts pour l'environnement. Entre autres, elles favorisent la biodiversité, elles permettent d'abriter des animaux, elles facilitent l'infiltration de l'eau dans les sols, et j'en passe. Et enfin, pour cette dernière info de cette chronique, je souhaiterais vous parler d'une étude relayée par le journal The Guardian qui révèle que des chercheurs italiens ont pour la première fois décelé la présence de particules microplastiques dans des placentas de 4 femmes enceintes. Ils ont retrouvé environ une douzaine de particules, alors que seuls 4% des placentas ont été analysés. Ceux de 2 autres femmes ayant participé à l'étude ne contenaient, eux, pas de microplastiques. Les chercheurs expliquent donc ce constat par une différence d'habitudes alimentaires, de physiologie ou encore de mode de vie. Rappelons que les effets exacts des microplastiques sur la santé sont encore méconnus et nécessitent des recherches plus poussées, mais les microplastiques restent un problème de santé publique car ils sont aujourd'hui présents partout, dans l'air que nous respirons, dans les aliments que nous mangeons ou encore dans l'eau que nous buvons. Les scientifiques qui ont mené cette étude expliquent que ces particules pourraient contenir des substances chimiques pouvant avoir des conséquences sur le long terme, notamment sur la croissance ou le développement du système immunitaire du bébé.
Bienvenue dans Mines de Savoir, une émission hebdomadaire animée par un groupe de 6 étudiants en école d'ingénieurs aux mines d'Albi et que vous pouvez retrouver sur radioalbiges.com ou encore sur la chaîne YouTube Mines de Savoir.
Après avoir expliqué le phénomène du réchauffement climatique, thème de cette première émission, question à présent de comprendre, avec Brice, comment les scientifiques en sont venus à cette conclusion.
C'est en 1827 que le français Joseph Fourier découvre le principe de l'effet de serre. Il a ensuite été montré que notre planète serait invivable sans l'effet de ces gaz qui absorbent la chaleur et la gardent dans l'atmosphère. Ensuite, c'est Arrhenius qui va étudier l'impact du CO2 sur la température terrestre, ayant pour but d'expliquer notamment les cycles glaciaires. À l'époque, ces derniers n'avaient autre explication que les variations des orbites terrestres. Cette théorie d'Arrhenius, elle fut longtemps réfutée, mais 80 ans plus tard, des études de chercheurs de Grenoble menées sur le CO2 piégé dans les bulles d'air dans la glace antarctique viennent appuyer et confirmer la théorie d'Arrhenius. Dès le début de l'ère industrielle, on savait que les industries rejetaient du CO2 et que ce CO2 pouvait augmenter la température sur Terre. Mais à ce moment-là, de nombreuses théories pensaient que la Terre pouvait facilement réguler la présence de CO2, notamment grâce aux océans. C'est donc en 1958 que Monsieur Charles David Keeling développe un outil qui mesure le CO2 assez précisément et il décide de l'installer à Mauna Loa, à Hawaï, et constate l'augmentation moyenne de CO2 dans l'air. La courbe qui en résultera sera devenue une icône pour le réchauffement climatique. Puis, dans les années 70, les scientifiques commencent à redouter un réchauffement global, et certaines prédictions disaient déjà qu'au début du XXIe siècle, des températures de plus de 1000 ans seraient battues. Autre étape importante, le rapport de Charney de 1979, commandé par le président américain Carter, montre une fois de plus les probables conséquences de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. En 1980 est alors créé le Programme mondial de recherche sur le climat, puis en 1988 le GIEC rassemblant ce programme, ainsi que l'ONU et l'Organisation mondiale de la météo. Concernant le GIEC, son but est de faire un point sur les avancées des solutions pour limiter les gaz à effet de serre, les risques liés au réchauffement climatique et comment les résoudre, et enfin l'évolution de la science pour mieux comprendre et combattre le changement climatique. Il regroupe 195 États, ainsi que des experts qui publient des rapports ayant pour but d'aviser les États et non pas de prescrire. Son budget est donc de 6 millions d'euros et est donné par des États membres volontaires. À partir de 2007, les rapports sont quasiment formels quant à l'influence de l'homme dans le réchauffement climatique. Ainsi, ils incitent désormais à ne pas dépasser une augmentation de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, d'où notamment certaines mesures comme les accords de Paris, le tout pour éviter de trop grands bouleversements climatiques qui pourraient affecter durement les formes de vie sur notre planète. Après en avoir appris un peu plus sur l'histoire du réchauffement climatique, écoutons à présent la chronique de Tanguy qui va nous parler de ses conséquences et notamment du permafrost.
Alors le réchauffement climatique a évidemment plein de conséquences et nous en avons tous déjà entendu parler d'ailleurs. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans l'actualité et pour cause, on observe une multitude de changements qui d'ailleurs ne sont pas très réjouissants. Ils provoquent la fonte des glaces, une élévation du niveau de l'océan, et une augmentation de son acidité, ainsi on voit toute la biodiversité se détruire à petit feu. Les coraux disparaissent, les espèces sous-marines voient leur nombre d'individus baisser drastiquement, bref, Et globalement, ce n'est pas la joie. De manière générale, le climat est complètement bouleversé avec des phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents. Il y a des catastrophes naturelles de plus en plus importantes, de la sécheresse ou des inondations accrues. Et finalement, plus grand chose ne marche correctement en fait. Mais il y a bien un phénomène dont on entend beaucoup moins parler, mais qui est tout aussi important, c'est le dégel du pergélisol. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors déjà, le pergélisol, ou permafrost, c'est le nom anglais qui désigne la même chose, qu'est-ce que c'est ? Le pergélisol est une partie située en profondeur dans le sol, qui a sa température en permanence en dessous de 0 degré Celsius, et qui est donc gelée. Alors, il n'y en a pas partout sur Terre, le pergélisol existe seulement là où il fait très froid, donc principalement dans les hautes latitudes, comme dans le Groenland, l'Alaska, le Canada, ou encore la Sibérie. Mais il existe aussi à haute altitude, comme dans les Alpes par exemple. Il recouvre près d'un quart des sols dans le monde, soit environ 23 millions de kilomètres carrés. Il y a des variations selon le lieu géographique, mais le pergélisol est situé à partir de 2-3 mètres de profondeur et peut atteindre plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. De par des relevés de température ou par satellite, le pergélisol est très étudié, car il est un indicateur significatif du réchauffement climatique. Le fait est qu'on observe de fortes diminutions de son épaisseur, voire même sa disparition à certains endroits. Le pergélisol fond à cause des augmentations des températures. Et nous allons le voir ensemble, c'est un énorme problème qu'il fonde. Le pergélisol est comme une bombe à retardement, car il contient énormément de gaz à effet de serre. Pour vous donner des chiffres, on estime par exemple que 1500 milliards de tonnes de CO2 et de méthane sont piégées dans les sols gelés du pergélisol arctique. Il s'agit du double de ce qui est contenu dans l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas tout, car le pergélisol contient aussi énormément de mercure, environ 1,7 million de tonnes. Celui-ci a été piégé depuis la dernière glaciation qui a pris fin il y a 10 000 ans. Et s'il est libéré à cause du dégel des sols, il risque de contaminer et de polluer l'air ainsi que les océans. Évidemment, pour ne rien arranger, le pergélisol a déjà commencé à fondre, et une étude britannique montre que 40% du pergélisol pourrait avoir fondu d'ici la fin du 21e siècle. Nous sommes ainsi entrés dans ce cercle vicieux, où en fondant à cause du réchauffement climatique, le pergélisol libère des gaz responsables de ce réchauffement, accélérant encore plus sa fonte. Si le pergélisol venait à fondre entièrement, il serait responsable de l'augmentation d'entre 1 et 12 degrés Celsius de la température moyenne sur Terre. Alors certes, il s'agit d'une fourchette large, mais un simple degré d'augmentation a déjà de très nombreuses et importantes conséquences. Pour finir cette chronique avec une info qui résonne étrangement avec l'actualité, sachez que le pergélisol contient également de nombreux virus inconnus du passé. En 2014, deux virus ont été découverts et réactivés. Ils sont inoffensifs pour l'homme, mais il est possible qu'un jour le pergélisol libère un virus plus problématique. En 2016, par exemple, en Sibérie, un enfant et un troupeau de rennes sont morts à cause d'une bactérie, la bacille du charbon. Celle-ci provenait d'un cadavre de renne et s'est libérée à la suite du dégel du pergélisol. Ceci est donc bien une réalité.
Merci Tanguy pour cette explication sur l'impact du réchauffement climatique sur notre planète. Mais qu'en est-il des populations humaines ?
Vous qui nous écoutez, vous avez peut-être l'habitude d'entendre le terme de réfugié climatique, réfugié écologique ou encore migrant environnemental. Mais alors qui sont-ils ? Eh bien ce sont les personnes contraintes de quitter leur maison à cause de la dégradation de leur environnement liée au changement climatique. Quand on parle de dégradation de l'environnement, on parle aussi bien de hausse du niveau des mers et de dégradation des sols liée à la baisse des précipitations que de catastrophes liées au climat comme les inondations ou les sécheresses. Et ces dégradations entraînent le déplacement de millions de personnes chaque année. Mais alors qu'avec le réchauffement climatique on s'attend à voir ce nombre augmenter, il n'existe aujourd'hui aucun statut international pour encadrer et protéger ces migrations. Pourquoi est-ce que le terme de réfugié climatique pose problème ? Eh bien en fait, le statut de réfugié est une notion juridique dont les conditions d'attribution sont strictement définies depuis 1951 par la Convention de Genève qui stipule entre autres, je cite, que « le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dans lequel elle a la nationalité. » La définition ne s'applique pas à quelqu'un qui doit fuir son lieu de vie pour des raisons climatiques et qui migre qui plus est à l'intérieur de son propre pays. L'enjeu est donc de prendre en compte l'ensemble des différents déplacements climatiques possibles, leurs causes, leurs destinations, mais aussi de distinguer les migrations forcées des volontaires, les permanentes des temporaires, les nationales des internationales. Il faut aussi comprendre que les types de migrations sont interdépendantes. Il n'y a pas d'un côté les migrations économiques et de l'autre les migrations environnementales. Et ce sont là les principales raisons qui expliquent l'absence de statut juridique pour les déplacés climatiques. Mais alors, qui sont les principaux exposés ? Eh bien, trois grandes régions sont principalement concernées, l'Afrique subsaharienne, touchée particulièrement par la dégradation des sols et des sécheresses, l'Asie du Sud et du Sud-Est, exposée aux typhons et aux autres tempêtes, et les États insulaires, comme dans le Pacifique, première victime de la montée de la mer, comme en témoigne l'affaire Teitiota. Yohann Teitiota est un homme originaire de Kiribati, un état archipélagique situé dans l'océan Pacifique. Nous sommes en 2013, et M. Teitiota fait une demande d'asile à la Nouvelle-Zélande, expliquant que la situation devient de plus en plus précaire, à Tarawa, du fait de l'élévation du niveau de la mer due au réchauffement de la planète. Alors que sa demande est rejetée en 2015, il décide de se tourner vers le Comité des droits de l'homme et de l'ONU, qui, en janvier 2020, estime que son expulsion n'avait rien d'illégal. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous raconte cette histoire avec l'optimisme de voir les choses qui commencent à bouger. Eh bien en fait, cette décision est un précédent mondial, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kate Schutz, une des représentantes d'Amnesty International dans le Pacifique. Le comité a en effet néanmoins reconnu que le changement climatique représentait une grave menace pour le droit à la vie et que les décideurs devaient tenir compte de cela lors de l'examen des recours contestant une ordonnance d'expulsion. Une histoire qui risque de se répéter avec les années à mesure que le niveau de la mer augmente et que les conditions climatiques deviennent de plus en plus rudes dans certains coins du globe. Alors, pour réduire ces migrations climatiques, ne restons pas les bras croisés. Une solution, et non des moindres, est de diminuer notre impact sur l'environnement. Quoi de mieux pour cela que de s'inspirer des conseils de l'Instant Astuce, une chronique animée aujourd'hui par Léa.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien sur Radio Les Albigés. Bienvenue dans Mines de Savoir, une émission hebdomadaire animée par un groupe de 6 étudiants en école d'ingénieurs aux mines d'Albi et que vous pouvez retrouver sur le site radio Les Albigés ou en podcast sur notre chaîne YouTube Unita. Pour cette première chronique astuces et conseils, je suis ravie de pouvoir vous partager quelques pistes pour réduire notre impact environnemental et contribuer à limiter le réchauffement climatique. Des conseils, on peut en donner à l'appel. Il y a ceux qu'on nous répète, comme moins utiliser sa voiture, recycler, consommer des fruits et légumes de saison, et je vous fais confiance pour les appliquer au mieux. Dans cette chronique, je voulais vous donner d'autres pistes, pour qu'en sortant de votre voiture tout à l'heure, en éteignant votre radio, ou en arrivant à la fin de ce podcast, pour ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube Unita, vous puissiez faire un geste simple en plus des autres. Et pour cela, j'ai décidé de m'appuyer sur la Squad Guide. La Squad Guide, c'est un groupe de 4 étudiants ingénieurs des mines d'Albi et membres de l'association Ingénieurs pour un développement durable. Leur objectif est simple, regrouper des alternatives à certains produits que l'on utilise au quotidien et qui ont un impact néfaste sur l'environnement. Pour donner plus de visibilité à ces solutions, ils ont décidé de créer un compte Instagram, ecoguide_minalbi. Chaque semaine, ils proposent aux élèves de l'école des mines, au personnel et à tous ceux qui souhaitent s'y abonner, des options en 3 niveaux. Un premier niveau très accessible, un deuxième niveau qui nécessite un effort supplémentaire, et enfin un troisième niveau pour ceux qui sont prêts à sortir de leur zone de confort pour en faire encore davantage. Vous y trouverez déjà des posts sur le coton-tige, le déodorant ou encore des alternatives au liquide vaisselle. Acheter en vrac, acheter rechargeable ou encore le faire soi-même, des petits gestes pour l'environnement, il y en a plein. Alors n'hésitez pas à aller les suivre sur le compte Instagram ecoguide_minalbi.
Merci beaucoup Léa. Et pour être moi-même abonné à ce compte, je confirme, il y a plein de façons d'agir au quotidien. À présent, direction les États-Unis. C'est l'heure du zoom politique. Aujourd'hui, on s'intéresse au bilan environnemental du mandat de Trump.
Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler des États-Unis. Les États-Unis, en termes d'écologie, c'est quoi? C'est 15% des émissions mondiales de CO2 pour moins de 5% de la population mondiale. Ils sont le deuxième pays le plus pollueur au monde. Et si on veut comparer par exemple avec la Chine qui est souvent pointée du doigt pour sa pollution, elle pollue certes 2 fois plus, sauf qu'elle est 4 fois plus peuplée que les États-Unis. Donc forcément, en termes de responsables de réchauffement climatique, le regard se porte de l'autre côté de l'Atlantique. Et justement, après 4 ans à la Maison Blanche et sa défaite aux élections de novembre dernier, c'est le moment parfait pour dresser un bilan écologique de celui qu'on ne présente plus, Donald Trump. Mais avant de vous parler de son mandat, laissez-moi vous citer un de ses tweets datant de 2014. Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine non compétitive. Des tweets de ce genre négationnistes envers l'écologie, il en a fait plein. Pour beaucoup des fake news qui concernent l'écologie et le réchauffement climatique, au point que Twitter a suspendu son compte dès qu'il a été battu par Joe Biden en novembre dernier. Donc vous comprendrez, la couleur était déjà annoncée, l'écologie n'était pas une grande priorité pour le président Donald Trump. Il sera tout de même élu en 2016, et en juin 2017, il annonce le retrait des États-Unis des accords de Paris lors de la COP21. Ces fameux accords de Paris ont été signés par 196 pays et qui ont pour but de réduire les émissions mondiales de CO2. À ce moment-là, pour se justifier, il dit vouloir défendre l'économie américaine qui serait menacée par ces accords, mais il se dit prêt à renégocier de nouveaux termes qui seraient plus favorables à son pays. Très honorable, sauf que 3 ans plus tard, rien n'a été observé dans ce sens. En ce qui concerne la politique intérieure, c'est pas non plus très glorieux. La liste est assez longue, et je peux citer la nomination d'un ex-lobbyiste du charbon à la tête de l'Agence américaine de l'environnement, des mesures qui ouvrent 90% du littoral américain à l'exploitation pétrolière, la suppression de subventions qui ont pour but de promouvoir les énergies renouvelables, redéfinition du statut de parcs nationaux protégés, etc., etc. Encore une fois, vous l'aurez compris, même en politique intérieure, l'écologie n'est pas une priorité. Mais maintenant, on peut remettre un peu de contexte. Du côté des opposants à Donald Trump, les démocrates, grosso modo la moitié gauche de la sphère politique américaine, qu'est-ce qu'on en pense de l'écologie ? Eh bien en 2016, la candidate qui l'opposait, Hillary Clinton, souhaitait investir dans les énergies renouvelables. Joe Biden, lui, président élu en novembre dernier face à Donald Trump, a un programme très ambitieux pour son mandat. Restriction de l'industrie pétrolière, promesse d'une économie à zéro émission d'ici 2050, installation de 500 000 bornes de recharge pour voitures électriques, le tout avec plus de 400 milliards de dollars américains d'investissement pour l'innovation. Donc finalement, on pourrait se dire que la ligne est assez claire, qu'il suffirait de voter démocrate pour rendre l'Amérique écologique. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Eh bien, les États-Unis, c'est aussi un congrès, un sénat, une chambre des représentants. Le président américain, malheureusement, n'a pas moins de pouvoir qu'en France. Par exemple, pour faire passer des lois, il doit avoir un accord du Sénat, ce qui n'est pas toujours le cas, dépendant s'il y a la majorité républicaine ou démocrate. C'est quelque chose qu'a voulu faire Barack Obama. Il a voulu instaurer une taxe aux entreprises sur les émissions de gaz à effet de serre, sauf que le projet de loi a été rejeté. Donc en fait, Joe Biden, quand on regarde, il a encore beaucoup à faire s'il veut faire passer ces mesures qui sont très ambitieuses pour l'environnement. Mais alors à qui la faute, vous me direz ? Pourquoi on a du mal à faire passer ce type de loi aux États-Unis ? Eh bien en tant que bonne démocratie, ce sont les Américains qui choisissent leurs élus. Et quand on vote pour quelqu'un, on vote pour ses idées auxquelles on adhère. Et parfois, il en résulte des hommes qui ne croient pas forcément au réchauffement climatique, comme Donald Trump. Et pour en conclure, je vous invite à vous poser la bonne question. Qui prend réellement les mauvaises décisions ? Est-ce que ce sont les élus contre l'environnement qui sont en charge du gouvernement ? Ou est-ce que c'est le peuple qui les a choisis pour les représenter ?
Après ce zoom sur les États-Unis, c'est maintenant à Andy de se pencher sur la politique environnementale, mais cette fois à l'échelle mondiale.
Alors, les modifications de notre environnement causées par le changement climatique vont avoir un impact profond sur une société humaine. L'humanité dans son entièreté est concernée, il est donc central de prendre des décisions à l'échelle mondiale. Mais alors, quelle est et quelle a été la politique climatique menée dans le monde ? C'est lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, le 21 mars 1992, qu'est adopté le premier traité international visant à prévenir les activités humaines dangereuses pour le système climatique. La CCNUCC, pour Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, est aujourd'hui ratifiée par 196 pays, plus l'Union européenne, appelée « partie à la Convention ». Dans son rapport de 2019, le Commissariat général au développement durable présente les trois principes reconnus par la Convention. Le premier est le principe de précaution, qui affirme que l'incertitude scientifique quant aux impacts du changement climatique ne justifie pas de différer l'action. Puis vient le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui affirme que toutes les émissions ont un impact sur le changement climatique, mais que les pays les plus industrialisés portent une responsabilité accrue dans la concentration actuelle des gaz à effet de serre. Et enfin, vient le principe du droit au développement économique, affirmant que les actions de lutte contre le changement climatique ne doivent pas avoir une incidence néfaste sur les besoins prioritaires des pays en développement, comme par exemple l'éradication de la pauvreté. Ainsi, depuis 1995, les États signataires de la CCNUCC se réunissent annuellement lors des conférences des parties ou COP. Organisés successivement sur chaque continent, ces rassemblements ont trois buts. Le renforcement des engagements pris, l'évaluation du degré d'application des mesures et l'adoption d'objectifs communs ou individuels pour lutter contre le réchauffement climatique. Les COP sont le lieu de négociations, de colloques, d'expositions, de campagnes de sensibilisation et font participer différents acteurs non étatiques issus par exemple de la société civile ou de la communauté scientifique. Mais alors, quels sont et que contiennent les accords pris lors des COP depuis 1995? Le premier résultat des négociations internationales sur le climat est le protocole de Kyoto. Il est ratifié par 37 pays lors de la COP 3 le 11 décembre 1997 au Japon. Son but est de réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique par rapport au niveau de 1990. Pour atteindre cet objectif, l'article 2 du protocole de Kyoto invite les signataires à promouvoir les méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement pour protéger et renforcer les puits et réservoirs de gaz. Développer les secteurs de l'agriculture durable et des énergies renouvelables. Investir dans la recherche de technologies écologiques et innovantes. Réaliser une meilleure gestion des déchets. Et enfin réduire, voire supprimer, les exonérations d'impôts et les subventions pour les secteurs émettant des gaz à effet de serre. Les mesures sont là, mais, pour entrer en vigueur, le protocole de Kyoto doit être ratifié par 55 pays développés, générant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 1990. Et il faudra pour cela attendre 2005. Aujourd'hui, 194 États, ainsi que l'Union européenne, ont signé ce protocole, mais nous devons relever l'absence notable des États-Unis et le retrait du Canada en 2011. Le protocole de Kyoto n'a jamais été contraignant, car aucune sanction en cas de non-respect des engagements n'a été décidée. Ainsi, seuls 37 pays se sont réellement engagés sur les objectifs de ce dispositif. Finalement, ces derniers ont été largement dépassés, avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 22,6% contre les 5,2% recherchés. Les années, les COP et les accords se succèdent. En 2001, à l'occasion de la COP 7, est ratifié l'accord de Marrakech. Son but est de proposer une manière de lutter contre le changement climatique sans pénaliser la croissance des pays en développement qui ont besoin de stabiliser leur économie et de réduire leur pauvreté. Les signataires s'accordent donc pour octroyer une aide des pays développés vers les pays en développement. Vient ensuite la conférence de Poznan lors de la COP 14 de 2008. À cette occasion, les 27 pays de l'Union européenne s'entendent sur les moyens de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à 1990. Puis, grâce à la COP 15 de 2009, est ratifié l'accord de Copenhague. Il pose l'objectif de limitation du changement climatique à 2 degrés et fixe l'aide des pays développés à 30 milliards de dollars sur 2010-2012, puis à 100 milliards de dollars par an en 2020. Cette COP est soutenue par une importante mobilisation de la société civile, une forte médiatisation et l'espoir d'une véritable implication états-unienne après l'élection de Barack Obama. Cependant, comme le protocole de Kyoto, l'accord de Copenhague n'est pas assez contraignant car les États rejettent les mécanismes de vérification proposés. Rédiger un accord qui soit légalement et juridiquement contraignant est donc l'ambition de la COP21 de 2015. Ainsi, l'accord de Paris pour le climat est historique car il rassemble toutes les nations autour d'un projet universel et ambitieux qui vise à limiter la hausse des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Ses principaux axes de lutte contre le changement climatique sont les suivants. Créer un plafonnement mondial des émissions et atteindre la neutralité climatique. Conserver et renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Renforcer la capacité d'adaptation et la résilience pour réduire les vulnérabilités au changement climatique. Obliger les pays développés à appuyer les efforts des pays en développement par une aide financière ou technologique. Renforcer la sensibilisation du public, sa participation et son accès à l'information, et créer l'éducation et la formation au changement climatique. Contraindre les parties à préparer, communiquer leurs contributions déterminées au niveau national, nommé CDN, tous les 5 ans, et à fournir les informations nécessaires à la clarté et à la transparence. Exiger que les informations soumises par chaque partie soient examinées par des experts techniques internationaux. Et enfin, instaurer un bilan mondial ayant lieu tous les 5 ans pour évaluer les progrès réalisés, pour aider les parties à actualiser et à renforcer leurs mesures, et pour appuyer et renforcer la coopération internationale en matière d'action climatique. L'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016, après avoir été ratifié par 55 pays représentant au moins 55% des émissions mondiales. Il est aujourd'hui signé par 183 parties. Cependant, l'ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord en 2017. L'élection récente de Joe Biden redonne espoir de voir l'un des pays les plus pollueurs au monde réintégrer l'accord et agir contre le réchauffement climatique. Les COP ayant eu lieu après l'adoption de l'accord pour le climat se sont inscrites dans sa continuité. Leur but, obtenir de nouveaux engagements et clarifier et appliquer les règles. Une avancée notable a été réalisée en 2017 aux îles Fidji, lorsque 20 pays dont la Grande-Bretagne, le Mexique et le Canada se sont engagés à abandonner le charbon. Mais pour contenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés, les États doivent fournir encore plus d'efforts. En effet, selon le dernier rapport du GIEC, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée est insuffisante et le réchauffement risque de dépasser les 3 degrés. Les conséquences pour nos sociétés et notre environnement seraient alors catastrophiques. L'enjeu de la COP26, qui se déroulera à Glasgow du 1er au 12 novembre 2021, est donc crucial. Il s'agit de convaincre les États de revoir à la hausse leurs engagements pour atteindre l'objectif ambitieux du zéro émission de carbone d'ici 2030.
Nous avons évoqué la politique environnementale aux États-Unis, à l'international, mais qu'en est-il en France ? Laissons la parole à Louis, qui va nous éclaircir aujourd'hui sur la Convention pour le climat.
Bonjour à tous, c'est Louis, je suis avec deux de mes petits camarades, Joachim et Andy, et donc je vais les tester sur un des événements importants actuels de la politique écologique en France, la Convention pour le climat. Donc on va voir s'ils s'y connaissent. Première question pour vous, qui compose la Convention pour le climat ?
Moi dans mon idée c'est des personnes issues de la société civile, donc de tous les corps de métier, mais des citoyens en tout cas.
Ouais, donc c'est exactement ça, donc c'est 150 personnes qui ont été tirées au hasard et qui font partie de catégories sociales différentes. Ensuite, est-ce que vous connaissez l'objectif de la Convention pour le climat ?
C'est faire passer des réformes pour considérer l'écologie comme un terme plus important.
Alors, en gros, oui, c'est ça. Plus précisément, on va dire, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport aux émissions de gaz à effet de serre de 1990. Et évidemment, ça passe par des propositions de loi proposées par ces 150 personnes tirées au hasard. Ensuite, est-ce que vous savez combien de propositions ont été faites par les citoyens ?
Moi, je pense qu'il y en a une bonne centaine, au moins.
Ouais, donc précisément 149. Donc sur quatre thèmes différents, celui de la consommation, du travail et de la production, du déplacement, du logement et de l'alimentation. Ensuite, combien de propositions ont été annulées ou ont été partiellement reprises? Sachant pour vous aider que Macron avait annoncé qu'il n'y aurait absolument aucun veto et qu'elles seraient toutes acceptées.
Moi, je dirais une quinzaine.
Ok, et Andy ?
Moi, je dirais au moins 60.
Ok, bon. Vous êtes peut-être un peu pessimiste. Pour l'instant, la seule qui a été vraiment annulée, c'est sur l'implémentation de la 5G, que Macron a rejetée. Et ensuite, il y en a 8 autres qui ont été modifiées, parfois vraiment beaucoup modifiées. Mais il y a quand même l'idée derrière. Après, on va voir ce que ça va donner une fois qu'elles seront vraiment implémentées. Et donc, au contraire, combien de propositions ont déjà été acceptées?
Je dirais 30. T'en penses quoi, toi?
Je sais pas. 50?
Bon, on en est pas encore là. Pour l'instant, il y en a 4 qui ont été votées et implémentées. Mais il y en a aussi 11 qui sont déjà plus ou moins en bonne voie, puisqu'elles font partie du plan de relance économique. Et donc, normalement, elles devront elles aussi être acceptées. Ensuite, assez dure celle-là. À votre avis, combien ça va coûter cet ensemble de réformes? C'est vraiment pas évident d'avoir une idée, je pense, de ce niveau de budget. Dites-moi un chiffre, on verra ce que ça donne.
Moi, je pense que sur le court terme, ça va coûter beaucoup. Donc, je pense au moins, je sais pas, 10 milliards. Mais par contre, sur le long terme, ça va être forcément bénéfique. Donc, je dis 10 milliards sur le court terme.
Ok, et Joachim?
Je sais pas, j'ai plus 2 ou 3 milliards.
Ok, donc je vais vous donner les chiffres précis. Ce sera 6 milliards par année pour les mesures qui sont prévues.
Par année?
Par année, oui. Donc ça risque de faire pas mal. Il y a aussi 5 millions qui sont utilisés pour indemniser le travail de tous ces citoyens qu'on fait quand même du beau travail. Hein. 149 propositions de loi, c'est pas rien. Donc voilà, ça aussi, ça a un coût. Et donc, selon vous, pour l'instant, est-ce que l'objectif de base d'avoir autant de réduction de gaz à effet de serre, d'avoir eu l'engagement d'accepter toutes les propositions qui est pour l'instant pas vraiment tenue, mais enfin bon, on va voir encore dans le futur comment ça va se passer. Est-ce que pour vous, l'objectif de base, il est respecté?
Alors, pour moi, je trouve que l'idée de faire une convention citoyenne, donc de faire participer les citoyens aux démarches pour l'environnement, c'est une bonne chose. Il faut juste pas que ça soit comme... Enfin, les critiques qui sont faites à cette convention, c'est qu'elle est juste là pour faire comme si on faisait de l'écologie, mais en fait, on n'en fait pas. Donc, l'important, c'est que le gouvernement, il aille au bout du projet qu'il a mis en place, et donc qu'il mette en place les réformes que les citoyens ont choisies. Enfin, il y a des réformes qui sont importantes à faire, par exemple celle sur la 5G, qui a été refusée encore pour des enjeux économiques, certainement. Donc, si le gouvernement veut vraiment s'investir en termes d'environnement, il faut qu'il aille au bout de ce projet de commission citoyenne, je pense.
D'accord, très bien. Et Joachim, ton point de vue?
Ouais, je suis d'accord avec Andy, mais je pense que c'est déjà une bonne première chose qui est faite d'avoir une entente entre les citoyens et le gouvernement là-dessus. C'est déjà un pas vers l'avant qui est quand même assez cool, je trouve.
C'est vrai que, mine de rien, voilà, faut le souligner, c'est quand même une belle initiative. Après qu'elle soit totalement respectée ou pas, c'est un autre débat, mais faut quand même souligner, c'est pas dans tous les gouvernements qu'il y a ce genre d'initiative. Je vais vous poser deux petites dernières questions sur les réformes. À votre avis, celle qui a été la moins acceptée, peut-être vous en avez entendu parler, ça fait un petit peu réagir les gens.
La moins acceptée?
Ouais, c'est ça, celle que l'opinion publique préfère le moins.
Je pense que ça va être un truc avec les automobiles, non? Réduire l'utilisation des voitures ou un truc comme ça?
Ouais, la vitesse de 90 à 80.
Alors, c'est pas celle-là, parce que 90 à 80, ça a déjà été fait, mais c'en est une autre, qui est de passer de 130 à 110 km/h. Mais t'avais l'idée, en tout cas, c'est pas mal. Et donc, pour vous donner le chiffre, c'est 74% des Français qui sont défavorables à cette réforme. Et ensuite, à votre avis, quelle est la plus acceptée? On en a aussi un petit peu entendu parler, mais c'est pas forcément évident. On sait pas forcément déjà que ça vient de la Convention pour le climat, mais on a entendu un peu parler dans de l'actualité.
Je vois pas. Moi, perso, je penserais peut-être à l'agriculture.
Non, c'est pas ça. Joachim, peut-être?
C'est les pailles, qui ont viré les pailles.
Non, c'est pas ça non plus. Ça aurait pu, mais non. Donc, c'est l'intégration de la préservation de l'environnement dans la Constitution, qui, d'après les sondages, est acceptée par les Français à 82%.
Écocide, etc.
C'est exactement ça. C'est le délit d'écocide, qui, en gros, bah voilà, ça va faire partie de la loi. On pourra punir éventuellement les dérives à ce sujet-là. Et donc, pour finir cette émission, quoi de mieux qu'une note légère avec la chronique de Joachim?
«
Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Parce que moi, bof, faut dire qu'on vit un sacré début d'année 2021. Le Covid est toujours aussi présent. On dirait le pote qui reste bien chez toi alors que t'as passé la soirée à essayer de gérer ton crush. En plus, aux US, le Capitole a été envahi. Mais vous avez vu la gueule des types, on se croirait 10 000 ans en arrière, en pleine ère glaciaire. Je suis sûr que même Trump, il a pas assumé que ce soit un homme tout ressorti du néolithique qui soit son premier supporter. Le mec était torse nu, avec une chapka à cornes. Bon déjà, fais un choix, ou t'y as chaud, ou t'y as froid. Je veux dire, c'est comme tu ne peux pas être à la fois repu et être quand même affamé. Sauf peut-être Depardieu, d'où le rapport à la chapka. Mais en vrai, je comprends un peu rien. En ce moment, moi aussi je suis perdu. Il a fait trop froid en début d'année. Limite, on devait allumer un feu pour se réchauffer. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement a commercialisé le couvre-feu. La semaine dernière, il a même fait moins de 10 degrés à Madrid. Pour la première fois depuis 50 ans, il a eu une grosse tempête de neige. Et nous, on s'est dit que c'est maintenant qu'il faut enregistrer une émission pour sensibiliser aux dangers du réchauffement climatique. Je peux vous dire qu'on a le sens du timing. Pour en revenir à Madrid, je me dis heureusement que ce n'est pas arrivé. Si je m'étais couché en voyant un mec déguisé en rat envahir le Capitole, et que je m'étais réveillé avec 10 cm de neige de partout, je serais devenu parano. En mode, c'est quoi la suite? Mon chat va se transformer en ours polaire, ou Brigitte Macron en marchand blanc? Bon, pour Brigitte, on ne dira rien. Mais bon, heureusement, l'hiver c'est fini. Il a duré un mois, je veux dire, ça y est. On retrouve des températures normales, enfin, supérieures aux moyennes de saison. Là, vous dites, waouh, un mec avec l'accent marseillais, c'est une radio albigeoise, truc de fou. Mais non, c'est juste que si je prends pas l'accent, j'ai l'articulation d'un bison en fin de vie. Et je peux vous dire, c'est pas fou. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de la planète, et à la prochaine.
Et pour finir, après s'être intéressé aux actions menées en France ou à l'échelle internationale, laissez-nous vous présenter ce que les étudiants d'IMT Minalbi ont mis en place pour réduire l'impact environnemental.
Alors oui, que faisons-nous concrètement sur le campus de l'école des mines d'Albi pour réduire notre impact sur l'environnement? Les élèves de l'école des mines d'Albi Carmo ont la possibilité de s'investir pour la préservation de l'environnement grâce à l'association I2D, signifiant Ingénieurs pour un développement durable. Cette association est subdivisée en plusieurs projets et associations, comme par exemple VMAC, chargé de la location et de l'entretien de vélos aux élèves de l'école. Le principe de VMAC est le suivant: promouvoir l'utilisation des vélos par les élèves de l'école en leur proposant des locations peu chères de vélos et des permanences réparations. L'association VMAC est gérée par des étudiants de l'école, qui sont donc chargés de louer et de réparer les vélos du VMAC, vélos provenant de dons de particuliers ou de prêts de la mairie d'Albi.
La chronique d'Andy marque la fin de cette première émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Les Albigès, mais aussi sur notre chaîne YouTube Unita. Nous souhaitons également remercier la Radio Les Albigès pour nous avoir donné l'opportunité d'enregistrer cette émission. Quant à nous, on vous dit à bientôt, et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'impact écologique de la mode.
Watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Right here, right now, is where we draw the line. Right here, right now, 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 right here, right now.
Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here.